Bonjour, chers auditeurs. Commençons cette actualité du pape par la 9e catéchèse qu'a donnée notre Saint-Père lors de l'audience générale ce mercredi 29 mars. Il y est question des témoins. Il sera question de Saint-Paul dans cette catéchèse. En voici la retranscription intégrale. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans notre parcours catéchétique sur le zèle apostolique, nous commençons aujourd'hui à considérer certaines figures qui, de manière et à des époques différentes, ont donné un témoignage exemplaire de ce que signifie la passion pour l'Évangile. Le premier témoin est bien naturellement l'apôtre Paul. Je voudrais lui dédier deux catéchèses. L'histoire de Paul de Tarse est emblématique à ce sujet. Dans le premier chapitre de la lettre aux Galates, tout comme dans le récit des Actes des apôtres, nous voyons que son zèle pour l'Évangile apparaît après sa conversion et prend la place de son zèle précédent pour le judaïsme. C'était un homme zélé pour la loi de Moïse, pour le judaïsme, et après sa conversion, ce zèle s'est poursuivi, mais pour proclamer, pour prêcher Jésus-Christ. Paul était un passionné de Jésus. Saül, le nom initial de Paul, était déjà zélé. Mais le Christ convertit son zèle, de la loi à l'Évangile. Son zèle voulait d'abord détruire l'Église. Plus tard, au contraire, il l'a construit. Nous pouvons nous demander, que s'est-il passé? Comment fait-il le passage de la destruction à la construction? Qu'est-ce qui a changé chez Paul? Dans quel sens son zèle, son élan pour la gloire de Dieu ont-ils été transformés? Saint Thomas d'Aquin enseigne que la passion, d'un point de vue moral, n'est ni bonne ni mauvaise. Son utilisation vertueuse la rend moralement bonne, le péché la rend mauvaise. Dans le cas de Paul, ce qui l'a changé, ce n'est pas une simple idée ou conviction, c'est la rencontre avec le Seigneur ressuscité. Ne l'oubliez pas, ce qui change une vie, c'est la rencontre avec le Seigneur. Ce fut pour Saül la rencontre avec le Seigneur ressuscité qui a transformé tout son être. L'humanité de Paul, sa passion pour Dieu et sa gloire n'est pas anéantie, mais transformée, convertie par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est l'unique capable de changer nos cœurs. Il en va de même pour tous les aspects de sa vie. Exactement comme dans l'Eucharistie. Le pain et le vin ne disparaissent pas, mais deviennent le corps et le sang du Christ. Le zèle de Paul demeure, mais devient le zèle pour le Christ. Le sens change, mais le zèle reste le même. Le Seigneur, nous le serons avec notre humanité, nous le servons avec notre humanité, avec nos prérogatives et nos caractéristiques. Mais ce qui change tout, ce n'est pas une idée, mais la vie elle-même, comme le dit Paul lui-même. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. La rencontre avec Jésus-Christ te change de l'intérieur. Elle fait de toi une personne différente. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est le sens d'être une nouvelle créature. Devenir chrétien n'est pas un maquillage qui change ta face. Si tu es chrétien, cela change ton cœur. Mais si tu es un chrétien d'apparence, ce n'est pas bon. Des chrétiens de maquillage, ce n'est pas bon. Le vrai changement, c'est celui du cœur, et c'est ce qui est arrivé à Paul. La passion pour l'Évangile n'est pas une question de compréhension ou d'étude, qui sont utiles, mais ne la suscitent pas. Elle signifie plutôt passer par cette même expérience de chute et de résurrection que Paul a vécue et qui est à l'origine de la transfiguration de son élan apostolique. Tu peux étudier toute la théologie que tu veux. Tu peux étudier la Bible et tout ça et devenir athée ou mondain. Ce n'est pas une question d'étude. Il y a eu beaucoup de théologiens athées tout au long de l'histoire. L'étude sert, mais ne génère pas la vie nouvelle de la grâce. En effet, comme le dit saint Ignace de Loyola, ce n'est pas tant la connaissance qui satisfait et rassasie l'âme, mais le fait de sentir et de goûter intérieurement les choses. Il s'agit des choses qui te changent de l'intérieur, qui te font connaître quelque chose d'autre, goûter quelque chose d'autre. Que chacun d'entre nous y réfléchisse. Suis-je un religieux ? Très bien. Est-ce que je prie ? Oui. Est-ce que j'essaie d'observer les commandements ? Oui. Mais où est Jésus dans ta vie ? Ah non, je fais les choses que l'Église commande. Mais Jésus, où est-il ? As-tu rencontré Jésus ? As-tu parlé à Jésus ? Prends-tu l'Évangile ou parles-tu avec Jésus ? Te souviens-tu qui est Jésus ? Et c'est quelque chose qui nous échappe si souvent. Quand Jésus entre dans ta vie, comme il est entré dans la vie de Paul, Jésus entre et tout change. Tant de fois, nous avons entendu des commentaires sur des personnes. Mais regarde celui-là qui était un malheureux et qui maintenant est un homme bon, une femme bonne. Qui l'a changé ? Jésus. Il a trouvé Jésus. Ta vie de chrétien a-t-elle changé ? Non, plus ou moins. Oui. Si Jésus n'est pas entré dans ta vie, elle n'a pas changé. Tu peux être chrétien de l'extérieur seulement. Non, Jésus doit entrer dans ta vie et cela te change. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. On a besoin de trouver Jésus. Et c'est pourquoi Paul a dit que l'amour du Christ nous saisit, ce qui te fait progresser. Le même changement s'est produit pour tous les saints qui, lorsqu'ils ont trouvé Jésus, ont progressé. Nous pouvons faire une autre réflexion sur le changement qui s'opère chez Paul, qui de persécuteur est devenu apôtre du Christ. Nous constatons qu'il se produit chez lui une sorte de paradoxe. En effet, tant qu'il se considère juste devant Dieu, il se sent autorisé à persécuter, à arrêter, voire à tuer, comme c'est le cas d'Étienne. Mais lorsqu'illuminé par le Seigneur ressuscité, il découvre qu'il a été un blasphémateur et un homme violent, et c'est ce qu'il dit de lui-même, « J'étais un blasphémateur et un homme violent », alors il commence à être vraiment capable d'aimer. Et voici comment. Si l'un d'entre nous dit « Ah merci Seigneur, parce que je suis une bonne personne et je fais de bonnes choses, je ne commets pas de gros péchés. » Ce n'est pas un bon chemin. C'est un chemin d'autosuffisance. C'est un chemin qui ne te justifie pas, qui fait de toi un catholique élégant. Mais un catholique élégant n'est pas un saint catholique. Il est élégant. Le vrai catholique, le vrai chrétien est celui qui reçoit Jésus à l'intérieur, qui change son cœur. C'est la question que je vous pose à tous aujourd'hui. Que signifie Jésus pour moi ? Est-ce que je l'ai laissé entrer dans mon cœur ? Ou est-ce que je le garde à portée de main, mais je ne le laisse pas entrer tellement à l'intérieur ? Me suis-je laissé changer par lui ? Ou bien Jésus n'est-il qu'une idée, une théologie qui se poursuit ? Et c'est cela le zèle. Quand on trouve Jésus, on sent le feu. Et comme Paul, on doit prêcher Jésus, parler de Jésus, aider les gens à faire de bonnes choses. Quand on trouve l'idée de Jésus, on reste un idéologue du christianisme. Et cela ne sauve pas. Seul Jésus nous sauve. Si tu l'as rencontré, et si tu lui as ouvert la porte de ton cœur, l'idée de Jésus ne te sauve pas. Que le Seigneur nous aide à trouver Jésus, à rencontrer Jésus, et que ce Jésus de l'intérieur change notre vie et nous aide à aider les autres. Lors de l'Angélus, notre Saint-Père a commenté l'évangile de la résurrection de Lazare. En voici la retranscription. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, en ce cinquième dimanche de carême, l'Évangile nous présente la résurrection de Lazare. C'est le dernier des miracles de Jésus racontés avant Pâques, la résurrection de son ami Lazare. Lazare est un ami cher à Jésus, qui sait qu'il est sur le point de mourir. Il se met en route. mais arrive chez lui 4 jours après l'enterrement. Tout espoir est perdu. Sa présence, cependant, ravive un peu la confiance dans le cœur des sœurs Marthe et Marie. Elles s'accrochent à cette lumière, à cette petite espérance malgré leur souffrance. Jésus les invite à la foi et demande l'ouverture du tombeau. Il prie ensuite le Père et crie à Lazare, « Lazare, viens dehors !» Et ce dernier revient à la vie et sort. Voilà le miracle. Comme cela, tout simplement. Le message est clair. Jésus donne la vie même quand il semble que tout espoir ait disparu. Il arrive que l'on se sente désespéré. Cela nous est arrivé à tous. Ou que l'on rencontre des personnes qui ont perdu tout espoir, aigries par de mauvaises expériences. Le cœur blessé ne peut pas espérer. À cause d'une perte douloureuse, d'une maladie, d'une amère déception, d'un tort ou d'une trahison subie, d'une grave erreur commise, ils ont perdu l'espoir. Parfois, nous entendons ceux qui disent « il n'y a plus rien à faire » et qui ferment la porte à toute espérance. Ce sont des moments où la vie semble être un tombeau scellé. Tout est sombre et autour de nous, nous ne voyons que tristesse et désespoir. Le miracle d'aujourd'hui nous dit qu'il n'en est pas ainsi, que ce n'est pas la fin, que dans ces moments-là, nous ne sommes pas seuls. Au contraire, c'est précisément à ces instants que, plus que jamais, il s'approche pour nous redonner la vie. Jésus pleure. L'Évangile nous dit que Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Et aujourd'hui, Jésus pleure avec nous, comme il a pu pleurer avec Lazare. L'Évangile répète 2 fois qu'il est ému, souligne qu'il a fondu en larmes. Et en même temps, Jésus nous invite à ne pas cesser de croire et d'espérer, à ne pas nous laisser écraser par des sentiments négatifs qui nous enlèvent nos larmes. Il s'approche de nos tombeaux et nous dit, comme à l'époque, « Enlevez la pierre ». Dans ces moments-là, c'est comme si nous avions une pierre en notre âme, et le seul capable de l'enlever est Jésus, avec sa parole « Enlevez la pierre ». Jésus nous le dit à nous aussi, « Enlève la pierre, la douleur, les erreurs, même les échecs, ne les cache pas dans ton cœur, dans une pièce sombre, solitaire et fermée. Enlève la pierre, fais sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, mais j'en ai honte. Jette-le-moi avec confiance, dit le Seigneur. Je ne m'indignerai pas. Jette-le-moi sans crainte, parce que je suis avec toi. Je me soucie de toi, et je veux que tu recommences à vivre. Et comme il l'a fait avec Lazare, il le répète à chacun de nous. Sors de là, relève-toi, reprends le chemin, retrouve ta confiance. Combien de fois dans la vie nous nous retrouvons ainsi, dans cette situation, de ne plus avoir la force de nous relever. Et Jésus dit, va, va, je suis avec toi. Je te prends par la main, comme lorsque tu étais un enfant qui apprenait à faire ses premiers pas. Chers frères, chères sœurs, enlève les bandelettes qui te lient. S'il te plaît, ne cède pas au pessimisme qui te déprime, ne cède pas à la peur qui t'isole, ne cède pas au découragement causé par le souvenir des mauvaises expériences, ne cède pas à la peur qui paralyse. Jésus nous dit, « Je vous veux libre et vivant. Je ne vous abandonnerai pas, et je suis avec vous. Tout est sombre, mais je suis avec vous. Ne vous laissez pas emprisonner par la douleur, ne laissez pas mourir l'espérance. Frères, sœurs, revenez à la vie. Et comment puis-je faire cela? Prends ma main, et il nous prend par la main. Laissez-vous aider, il en est capable, dans ces mauvais moments qui nous arrivent à tous. Chers frères et sœurs, ce passage du chapitre 11 de l'évangile de Jean, dont la lecture fait beaucoup de bien, est un hymne à la vie, et il est proclamé à l'approche de Pâques. Peut-être que nous aussi, en ce moment, nous portons dans notre cœur un fardeau ou une souffrance qui semble nous écraser. Quelque chose de mauvais, un vieux péché dont nous n'arrivons pas à sortir, une erreur de jeunesse. Ces mauvaises choses doivent sortir. Et Jésus dit « Sortez ». C'est donc le moment d'enlever la pierre et de sortir vers Jésus qui est tout proche. Pouvons-nous lui ouvrir notre cœur et lui confier nos soucis? Le ferons-nous? Sommes-nous capables d'ouvrir le tombeau des problèmes? Sommes-nous capables de regarder au-delà du seuil vers la lumière ou en avons-nous peur? Et à notre tour, en tant que petit miroir de l'amour de Dieu, parvenons-nous à illuminer les milieux dans lesquels nous vivons avec des paroles et des gestes de vie? Témoignons-nous de l'espérance et de la joie de Jésus, nous, pécheurs, tous? Je voudrais dire aussi un mot au confesseur. Chers frères, n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes pécheurs, et que vous êtes dans le confessionnal non pas pour torturer, mais pour pardonner, et pour tout pardonner, comme le Seigneur pardonne tout. Que Marie, Mère de l'espérance, renouvelle en nous la joie de ne pas nous sentir seuls, et l'appel à apporter la lumière dans les ténèbres qui nous entourent. Le cardinal Mario Grech, secrétaire général du Synode des évêques, explique dans un entretien à Vatican News, à l'occasion des 10 ans du pontificat du pape François, pourquoi la synodalité, mais aussi la fraternité et la mission, sont au cœur du magistère du souverain pontife. Voici la retranscription de cette interview. Éminence, après 10 ans de pontificat pour le pape François, celui-ci est reconnu par les croyants et les non-croyants comme la voix, ou du moins l'une des voix les plus importantes au niveau international, même si elle est trop peu écoutée. Quels sont les gestes et les paroles de François que vous aimeriez souligner à l'occasion de cet anniversaire? Et au cardinal de répondre. Une phrase qui m'a frappé et qui me fait souvent réfléchir provient de l'encyclique Fratelli Tutti, où le Saint-Père dit qu'aujourd'hui, personne ne se sauve tout seul. Cette affirmation n'est pas seulement valable dans l'Église, mais doit aussi être décliné dans la vie quotidienne. En effet, je crois que dans un monde fragmenté, dans un monde de conflits et d'individualisme, le Saint-Père, inspiré bien sûr par Jésus et son évangile, essaie de créer plus de communion entre les hommes et les femmes de notre temps. Et ceci, je le répète, aussi bien dans le monde séculier que dans l'Église. C'est le défi, qui n'est certainement pas facile à relever, auquel le pape s'est attelé ces dernières années. Le pape François aide l'Église à faire des pas, de petits pas dans cette direction, précisément pour aider la communauté ecclésiale et la communauté internationale à s'unir pour faire face aux défis de l'humanité d'aujourd'hui. Aux journalistes de poser cette question. En parlant de défis, les pauvres, les migrants, les injustices du système économique actuel, les inégalités, le souci de la création, la paix, voilà quelques-uns des aspects récurrents du pontificat du pape François. Il dessine une Église qui a beaucoup à dire au monde et qui veut parvenir, comme vous l'avez dit, à une humanité plus fraternelle. On le voit notamment dans les 2 encycliques, Laudato si et Fratelli Tutti. Le cardinal de répondre. Ce que vous soulignez confirme la volonté du Saint-Père de marcher avec les personnes. Le pape François nous invite sans cesse à réfléchir sur la synodalité. Mais la synodalité n'est pas seulement un défi pour l'Église, c'est aussi un défi pour toute l'humanité. Je veux dire par là que le Saint-Père nous invite à marcher ensemble et à écouter tout le monde, sans exclure personne, y compris les personnes qui connaissent ces difficultés. Peut-être pouvons-nous aussi dire que le Saint-Père donne une voix à ceux qui sont pauvres, à ceux qui souffrent d'injustice, à ceux qui se sentent marginalisés. Une autre phrase qui me vient à l'esprit est en fait l'enseignement du pape François, lorsqu'il parle de la périphérie. Le pape François nous rappelle souvent que les changements dans l'histoire ne sont pas partis du centre, mais de la périphérie. Parce que ceux qui sont à la périphérie peuvent voir la réalité de manière beaucoup plus objective que ceux qui sont au centre. Ainsi, le pape reconnaît en fait la dignité et la valeur de chaque personne, et en particulier de ces catégories de personnes que vous avez soulignées. Ici, d'ailleurs, je crois que François envoie aussi un message à ceux qui détiennent le pouvoir dans le monde. Par ses actes, par ses choix, par ses actions, le pape dit « Mettez aussi ces personnes au centre, parce que personne ne doit être oublié, surtout pas ceux qui souffrent. » Face à ce défi, le Saint-Père nous dit de n'oublier personne, car chacun, même le plus petit, a quelque chose à apporter pour le bien du monde. Au journaliste de poser sa question. Nous avons regardé à l'extérieur. Maintenant, en regardant à l'intérieur de l'Église, ici aussi les appels à la conversion et au changement sont forts, contre le machisme et le cléricalisme, contre les abus, contre la tentation du pouvoir et de la mondanité, pour l'unité dans la diversité, pour un retour à une vie plus cohérente avec l'Évangile. Le cardinal de répondre. C'est la conversion ultime que le Saint-Père décline en plusieurs catégories. Conversion spirituelle, conversion écologique, conversion pastorale, conversion synodale. Le chrétien est dans cette dynamique de conversion. Et malheur à nous si ne nous souvenons pas que nous sommes dans ce processus de conversion. Et le Saint-Père, comme c'est son devoir, essaie de nous rappeler cela. Parce que si nous n'entrons pas dans ce processus de conversion, nous ne pouvons pas faire un pas en avant dans notre appel aussi à la sainteté. La conversion à la sainteté implique tous les aspects de la vie ecclésiale et humaine. Le journaliste de poser sa question. Cardinal Grèche, vous êtes le secrétaire général du synode, dont le thème est la synodalité. À votre avis, l'idée d'une église où l'on vit le style synodal est-elle une nouveauté ou une idée que le pape François a mûrie depuis longtemps? Et quelle est votre impression sur le chemin synodal emprunté par l'Église à l'étape où nous en sommes? Le cardinal de répondre. J'étais à l'Assemblée synodale continentale des Églises orientales, et un jour, un évêque m'a dit « Ce chemin synodal est un chemin de pénitence. » À vrai dire, ces mots m'ont un peu frappé. « Pourquoi pénitentiel ?» Il m'a répondu « Parce que la synodalité est un joyau que l'Église a eu au premier millénaire. Mais nous l'avons perdu, nous l'avons négligé. » Il s'agit donc d'un chemin pénitentiel. Car c'est aussi une demande de pardon au Seigneur pour avoir négligé, oublié cette dimension synodale de l'Église, qui n'est pas une nouvelle dimension que le pape François veut ajouter à l'Église, mais qui fait partie de sa nature. Ce que fait le pape François, c'est nous aider à redécouvrir la beauté de l'Église en tant que peuple de Dieu. Et c'est le discours du Concile Vatican II. Donc si aujourd'hui, à l'invitation du Saint-Père, nous réfléchissons, et j'espère que nous prendrons aussi des décisions pour rendre l'Église plus synodale, c'est parce que le Saint-Père veut traduire dans la vie quotidienne l'enseignement du Concile Vatican II, en particulier l'enseignement sur l'Église, l'ecclésiologie de Vatican II. Vous me demandez également comment se déroule ce processus. À ce stade, nous concluons la deuxième étape du processus, à savoir les réunions continentales. J'ai participé à 4 de ces 7 assemblées, et je dois avouer qu'à chaque fois nous avons été surpris par l'enthousiasme que nous avons trouvé. L'enthousiasme de tous, évêques, prêtres, personnes consacrées et laïques. Et oui, je peux dire que c'est une expérience indescriptible de voir avec quelle passion le peuple de Dieu parle de Jésus, de l'Évangile, de l'Église et de la présence de l'Église dans le monde. Malheureusement, cela ne fait pas les gros titres, mais c'est la réalité. Je ne dis pas que tout le monde est convaincu qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas de doute. Mais c'est un processus qui a commencé. Le Saint-Père nous rappelle souvent que le synode n'est pas un événement, mais un processus. Nous pouvons donc nous attendre à ce qu'avec le temps, la grâce du Seigneur fasse des merveilles. Ainsi se termine Actualité du Pape. Merci de votre attention. Chers auditeurs, c'était notre émission Actualité du Pape. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.